affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Chacun le sait, toute recherche historique est par nature menacée par de nombreux biais. Le plus fréquent, le plus naturel, consiste à analyser le passé avec la sensibilité d'aujourd'hui. Un autre peut consister à considérer le passé comme une sorte de vaste gisement de faits et d'événements dans lequel on pourrait piocher tel ou tel de façon à venir valider a posteriori telle ou telle idéologie, actuelle ou non d'ailleurs. Un troisième, beaucoup plus spontané et banal, peut consister à se laisser porter par son domaine de recherche, par le sujet que l'on s'est donné, au point qu'on en vient presque naturellement à en faire un facteur déterminant de l'histoire, pour la simple raison que c'est celui sur lequel on s'est penché. Ces écueils sont connus, mais ils touchent particulièrement certains sujets. C'est notamment le cas de l'histoire de l'esclavage qui précisément va nous occuper aujourd'hui. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Olivier Grenouillot qui, après avoir consacré un ouvrage aux traites négrières et un autre à l'esclavage proprement dit, vient de publier un ouvrage sur son abolition. Il s'agit de La Révolution abolitionniste, paru chez Gallimard et qui lui a valu d'obtenir le prix Guizot de l'Institut de France. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je précise, monsieur, que vous êtes bien sûr historien, cela chacun l'a compris, mais que vous êtes rattaché au centre Roland Mounier de Sorbonne Université. Alors justement, ma première question va porter sur le métier d'historien. Vous avez accompli un travail absolument titanesque sur le sujet de l'esclavage et de son abolition. Vous y avez consacré à l'évidence de nombreuses et de nombreuses années. Comment épouse-t-on, allais-je dire, un tel sujet? Quel est le facteur déclenchant lorsqu'on se lance dans une telle entreprise?
Écoutez, c'est une question que je me suis posée il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'est une question qui n'est pas forcément... que se pose pas forcément les historiens, que l'historien est habitué à essayer d'expliquer ce qui s'est passé auparavant et comprendre comment les autres, les acteurs du passé ont agi, mais un peu moins à faire de l'introspection. Hein. Et je me suis donc posé cette question et j'ai trouvé quelques éléments de réponse, je ne sais pas s'ils sont satisfaisants. Je crois en tout cas que l'un des déclics, c'est lorsque j'étais étudiant à l'université de Nantes. J'ai eu la chance de suivre les cours d'un enseignant qui était passionnant, Serge Daget, qui est à l'époque le spécialiste français de la répression de la traite. Et donc il avait un talent oratoire, il était passionnant. Et en plus, il nous a montré dès le départ qu'il s'agissait, et il parlait des traites, d'un phénomène planétaire sur le temps long. Et cette histoire globale sur la longue durée m'a de suite intéressé. Il parlait également et surtout d'histoires d'hommes, de femmes, d'enfants, d'une histoire terrible. Et cette dimension également profondément humaine m'a aussi beaucoup intéressé. Donc voilà, lorsque ensuite, quelques années après, j'ai voulu, soutenir, préparer une thèse de doctorat, je me suis inscrit sous ces directions. Et puis après, évidemment... Je veux dire que je n'avais pas programmé de publier ces trois livres chez Gallimard, ni les 25 ou 26 autres volumes ailleurs, mais pendant 25 ans ou plus, j'ai travaillé sur ces thématiques.
Dans votre ouvrage consacré donc à la révolution abolitionniste, on comprend qu'il y a un moment où l'abolition a pu se réaliser, parce qu'un certain nombre de facteurs est très pesant, que ça s'est cristallisé. Toutefois, vous commencez votre ouvrage par un chapitre introductif qui est intitulé « Avant, ailleurs, autrement ». Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là, replacer cet instant précis dans la longue durée?
Oui, parce que pour comprendre pourquoi à un moment donné, dans des régions du monde donné, est né un projet inouï, abolir définitivement la traite esclavage, il fallait se demander, mais n'avait-on pas imaginé auparavant, ailleurs, des moyens, sinon d'y parvenir, du moins d'avancer dans cette direction. Et on s'aperçoit que d'emblée, dans le monde occidental, l'esclavage pose problème. Et ça, il faut le dire, parce que souvent on imagine que voilà, jusqu'aux Lumières, en gros, bon, tout le monde s'accommodait de l'esclavage. Non. Puisque Aristote, c'est le premier qui nous a laissé une théorie de l'esclavage dit naturel, et on sait que Aristote, quand il écrit cela, il répond déjà aux objections d'un ou de plusieurs sophistes dont on ne connaît pas l'identité. Donc dès l'origine, ça pose un problème. Mais je dirais que pendant des milliers d'années, la plupart des penseurs qui ont réfléchi à cette question s'en sont accommodés. Au mieux, ils ont cherché des solutions permettant finalement de faire avec l'esclavage. C'est ce que j'appelle l'ère de la casuistique, hein, où on pense que globalement l'esclavage, puisque la plupart des penseurs sont d'accord, l'esclavage en droit, dans le droit naturel, les hommes sont libres, mais que dans d'autres droits, dans le droit des gens vivant en société, il peut y avoir des esclaves. Et pendant donc très très longtemps, on s'est accommodé de cette situation qui, pour autant, posait des questions philosophiques et
morales.
Et morales. Donc il fallait comparer. Comparer parce que, par exemple, il y a dans le passé les Esséniens, une secte juive qui disparaît au début du 1er siècle de notre ère. Il y a les thérapeutes, une autre secte de juifs hellénisés vivant au sud du lac Maréotis en Égypte, qui disparaît à peu près au même moment. Et Esséniens et thérapeutes se sont interdits de pratiquer l'esclavage. Par contre, ils se sont désintéressés de la question de l'esclavage existant en dehors de leur communauté perfectionniste. On a les Druzes au XIe siècle qui ne veulent accepter parmi eux que des hommes libres. On a des hommes comme Montesquieu, bien longtemps après, qui ont sapé les bases idéologiques de l'esclavage et qui ont joué un rôle déterminant dans l'origine de l'abolitionnisme. Mais on a comme ça dans le temps des hommes qui ont condamné l'esclavage, qui se sont refusés à la pratiquer, mais qui n'ont pas forcément milité pour y mettre un terme dans le monde comme institution. Et à mon sens, c'est cela qui fait la différence. L'abolitionnisme, ce sont des morales, mais des morales en action. Il s'agit de transformer le monde tel qu'il est.
Oui, il ne suffit pas de ne pas participer à une action qui serait un péché,
voilà,
ou une mauvaise action, mais il faut faire en sorte qu'elle soit effacée du monde.
Voilà, tout à fait. Il faut l'abolir, et le terme est essentiel. On parle longtemps de réforme du système esclavagiste. À travers les siècles, déjà à l'époque romaine, on essaye d'adoucir, entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais il est utilisé. On cherche à adoucir l'esclavage, à mieux nourrir les esclaves, on a à franchir un certain nombre. Mais on ne pense jamais la possibilité d'y mettre un terme comme institution. Et finalement, il n'y a que dans les sociétés utopiques que parfois il y a des mondes sans esclaves, et encore. Et quand les esclaves se révoltent, parce qu'ils se révoltent toujours pratiquement dans toutes les sociétés esclavagistes depuis les origines, eh bien, même eux essaient évidemment de s'extraire de ce système. Mais ensuite, s'ils y réussissent, ils ne luttent pas pour mettre un terme à l'esclavage en tant que tel.
Oui, ils luttent pour leur propre salut.
Voilà.
De façon à redevenir libres eux-mêmes, mais n'ont pas l'idée ou ne pensent ne pas avoir les moyens de l'abolir
oui,
partout.
Oui, tout simplement parce que dans ces époques-là, l'idée même d'abolir l'esclavage est une sorte d'impensé chez les esclaves, mais chez les philosophes les plus connus de ces temps anciens.
Alors toutefois, dans ce passé où l'esclavage est une institution quasi généralisée, hein, quand je dis généralisée, elle est généralisée géographiquement, on en trouve jusqu'en Asie, aucune civilisation n'y échappe, c'est bien ça.
Pratiquement. Là aussi, il faut être prudent parce que longtemps, l'idée que l'esclavage a été une sorte d'universel a été brandie par les esclavagistes pour justifier, pour légitimer le système. Voilà, il est universel de tout temps, donc il est entre guillemets naturel. Alors,
Oui, alors que c'est pas la même chose quand même.
Il y a eu, c'était un argument utilisé, hein, voilà. Il y a eu des exceptions. On sait que par exemple, en Australie, les aborigènes ne connaissent pas l'esclavage. Il y a quelques cas comme cela, mais globalement, oui, c'est une institution extrêmement répandue depuis sans doute le néolithique.
Alors, en revanche, ce passé où cette institution est extrêmement répandue sert toutefois quand même de gisement d'idées ou d'arguments pour ceux qui vont devenir ensuite des abolitionnistes. Il y a quand même une généalogie des idées qu'on peut découvrir, non ?
Oui, alors il y a quantité d'idées qui apparaissent très tôt. Dans les religions du livre, on a l'idée que les membres de la même communauté de deux fois ne peuvent pas ou ne devraient pas être réduit en esclavage. Chez les stoïciens, il y a l'idée que finalement, dans la communauté des hommes, finalement, tous sont plus ou moins égaux et on parle de l'esclavage de l'âme, tout finalement, mais ce qui est un moyen de faire oublier l'esclavage physique des corps. Hein. Donc, il y a, depuis les temps anciens, je dirais, des éléments, des ingrédients qui sont utilisés après par les abolitionnistes à la fin du XVIIIe siècle pour mettre un terme au système. Mais ces éléments, ces ingrédients ne se coagulent pas, ne se cristallisent pas. C'est pour ça d'ailleurs que, on parlera peut-être tout à l'heure du droit d'ingérence pour raisons humanitaires, mais on essaie souvent en histoire de trouver des moments d'invention. Et puis, lorsqu'on pense trouver le moment de l'invention, on s'aperçoit que quelques décennies, quelques siècles auparavant, il y a une idée qui circulait, qui ressemblait un peu vaguement à... Voilà. Ce qui fait que je préfère plutôt parler du moment de cristallisation. Lorsque des ingrédients, des idées qui circulaient, prennent forme autour d'un projet. Et cette cristallisation, finalement, elle s'opère en matière d'évolution à la fin du XVIIIe siècle.
Alors la cristallisation, ça fait référence à Stendhal, bien sûr, mais aussi à un procédé chimique. Dans ce précipité, il y a un certain nombre d'éléments. Très bien. Qu'est-ce qui provoque cette cristallisation à ce moment-là ? Il faut bien qu'il y ait un élément supplémentaire pour qu'elle se produise.
Alors là, c'était un très très vaste débat. Il y a la littérature sur le sujet est carrément himalayenne. Hein.
Mais votre bibliographie est himalayenne.
Oh, la bibliographie est très 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 succincte. Ce sont simplement les textes directement cités. Hein. Je n'ai pas mentionné tout ce qui peut être intéressant, tout ce que j'ai pu lire sur la question. Donc il y a énormément de travaux dessus. Et je dirais que on s'est posé cette question dès la fin du 18e. Et l'un des premiers ouvrages à expliquer pourquoi on abolit l'esclavage, la traite en Angleterre, est publié en 1788 par un abolitionniste. Et donc ce sont les abolitionnistes eux-mêmes qui commencent à écrire leur histoire.
Leur propre histoire, voilà. En même temps que ça produit.
Voilà, donc il y a énormément de travaux. Mais je dirais que pendant... ce qui est un peu... Ce qui est surprenant dans ces travaux, c'est qu'on a toujours essayé de chercher le facteur, la raison essentielle. Avec des modes historiographiques. On a d'abord imaginé que c'était simplement des raisons morales, avec les figures du saint, donc de l'homme de foi, du philanthrope ou du philosophe, et donc le combat du juste. D'autres nous ont dit, mais non, pas du tout, notamment lorsque la Grande-Bretagne abolit la traite et puis l'esclavage, c'est parce qu'elle se rend compte, l'Angleterre commence à s'industrialiser, elle a besoin de vendre dehors ses produits manufacturés, et le système de l'exclusif lié au monde colonial, finalement, devient un boulet pour elle. Donc ce serait par intérêt, uniquement pour ça, que l'Angleterre se serait mise à abolir la traite et l'esclavage, et ensuite à essayer de la faire interdire aux autres. Et puis après, heureusement, on s'est rendu compte que on a battu en brèche un vieux cliché, celui de l'esclave docile. Et on a indiquer que les esclaves sont de tout temps révoltés. Donc vous voyez, il y a différents modes historiographiques. Mais à chaque fois, on a tenté d'expliquer finalement le phénomène par l'un ou l'autre de ces éléments. Alors que ce combat, il apparaît vers les années 1770 et se termine pour l'Amérique en 1888, lorsque le Brésil est le dernier État américain à abolir l'esclavage, donc il dure pour les Amériques un bon siècle. Un siècle, plusieurs générations de personnes, plusieurs pays et plusieurs continents. À l'évidence, un facteur unique ne peut pas expliquer tout cela. Et donc, ce que j'ai essayé, c'est de voir comment il pouvait y avoir des facteurs, je dirais, à la fois généraux, dans le mouvement abolitionniste et puis des évolutions nationales spécifiques.
Vous créez à un moment du livre un effet de contraste entre un certain Fromageau et un certain Dors. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux personnages? Parce que leur approche, je trouve, c'est pour ça que vous les avez mis en regard, éclaire considérablement quand même une forme de mutation dans l'approche du problème.
Oui, alors là c'est la dimension pédagogique et là je suis très attaché parce que l'historien doit essayer de comprendre des phénomènes complexes. Mais après, lorsqu'il pense avoir réussi, plus ou moins, il faut qu'il puisse aussi, à son tour, essayer de le faire comprendre. Et justement, l'opposition de deux hommes d'église est saisissante. Fromageau est docteur des quatre consciences à la Sorbonne. Et en 1698, on lui demande, est-ce qu'on peut faire la traite en conscience? Il répond, mais longuement. Et il cite l'Ancien Testament, le Nouveau, les pères de l'Église, les exemples des civilisations anciennes, grecques, romaines, etc. Et il nous dit à la fin, au bout de plusieurs pages, non, on ne peut pas faire la traite en conscience. Puis, dans le dernier paragraphe, il se ravise. Si néanmoins cela permet de sauver les âmes de peuples païens, alors on peut néanmoins la faire. Voilà. Ça, c'est en 1698. Presque un siècle après, en 1688, c'est James Dort, c'est un pasteur qui s'adresse à ses fidèles dans un quartier de Londres et qui leur dit, pratiquement en les montrant du doigt, « Vous, en tant que chrétien, en tant qu'homme et en tant que britannique, épris de liberté, vous ne pouvez pas accepter la traite et l'esclavage. Sinon, vous allez vous mourir dans les flammes de l'enfer et la nation risque de disparaître. » Et donc, entre les deux, il y a un monde. Fromageau ne nous donne pratiquement jamais sa vision personnelle des choses. Il se fonde sur ce qu'ont dit les autres auparavant, sur la tradition. Dort s'adresse à ses fidèles en tant qu'homme. Il fait appel à leurs convictions personnelles. Voilà. Et c'est ça qui permet en partie la révolution abolitionniste.
Ce que vous appelez l'éthique de conviction.
Une éthique de conviction qui s'adresse à des individus acteurs inscrits dans un processus de démocratisation plus large de la société.
Alors, revenons à cet effet de contraste. Est-ce que cette éthique de conviction qui naît, n'est-elle pas précisément cet élément qui manquait auparavant? Car vous l'avez dit, Fromageau consacre la plus longue partie de son développement à expliquer que non, ce n'est pas naturel. Et finalement, se plie. Est-ce que c'est pas ça le point clé?
Alors, la non-naturalité de l'esclavage est acquise dès les temps les plus reculés. Hein. En droit naturel, pense-t-on, et Ulpien, un juriste romain du IIIe siècle, le dit, en droit naturel, les hommes sont libres. Mais dans le droit des gens, ils peuvent être esclaves. Et le problème, c'est que pendant des générations et des générations, ça ne suscite pas d'interrogation. Parce qu'on considère que le droit divin, le droit naturel, le droit des gens, peuvent être dissociés. À l'origine du projet abolitionniste, il y a l'idée au contraire que les droits doivent être emboîtés et qu'il y a une chose fondamentale au départ, ce sont des valeurs, comme l'idée de la naturalité, de la liberté. Et ces valeurs doivent, pensent certains à la fin du XVIIIe siècle, ces valeurs doivent être à la base du droit des gens. Donc les droits doivent s'emboîter. À partir du moment où les valeurs sont premières et les droits s'emboîtent, on peut penser le projet abolitionniste.
Alors toutefois, vous le montrez bien, tout cela prend, c'est probablement une dynamique ou une mutation générale, mais prend des formes extrêmement particulières dans les différents pays. C'est une des comparaisons les plus souvent mises en avant, mais comme elle est éclairante, on va quand même la prendre. Comparaison entre le modèle britannique d'abolitionnisme et le modèle français. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à grands traits les différences de méthode, de mobilisation et aussi de généalogie intellectuelle?
Alors, cette histoire de l'abolitionnisme, des abolitionnismes, a été réécrite en grande partie jusqu'ici par des anglo-saxons. Et donc, finalement, le modèle mis en avant a été le modèle britannique. Les Anglais auraient été les premiers à s'inquiéter de la chose et les premiers à agir véritablement. Les premiers, non. les premiers noms, puisque finalement, la question de l'abolition, au départ, dans les années 1770, c'est le fait de quelques individus qui sont originaires de la Suisse d'aujourd'hui, de la France, de la Grande-Bretagne, qui vivent en Amérique du Nord. Donc, quelques individus qui établissent des connexions entre l'Europe et l'Amérique. Et au départ, finalement, il n'y a pas de nation, je dirais, qui est plus en avance qu'une autre. Et dans un premier temps, d'ailleurs, ce sont des hommes venus d'Amérique du Nord qui essayent d'implanter en Angleterre l'idée d'abolition. Et il faut attendre la fin de la guerre d'indépendance américaine pour que finalement l'idée de l'abolition se, comme je le dis, entre guillemets, se nationalise en Angleterre. Voilà. En partie parce que finalement, l'abolition est perçue par certains, par les Quakers et par d'autres, comme moyen de régénérer la nation. On pense que si l'Angleterre a perdu la guerre d'indépendance, c'est parce que l'Angleterre a fauté, notamment avec la traite et l'esclavage. Et donc elle doit se régénérer, et pour devenir une grande nation, elle doit avoir une attitude plus morale. Voilà.
Oui, vous dites que ça correspond aussi à un renouveau très profond de la foi.
Oui, c'est l'époque des revivalismes, tout à fait. Et il y a cette dimension religieuse qui est importante, qui n'est pas unique, mais qui est importante. Et donc, il faut attendre un moment pour que la question devienne essentielle en Grande-Bretagne. Essentielle parce que là, comme vous le disiez, la différence par rapport à la France, c'est qu'en Angleterre, on a un mouvement qui devient très vite très populaire. Il y a des milliers de personnes qui signent des pétitions en faveur de l'abolition de la traite et de l'esclavage. À Manchester, par exemple, il y a 11 000 habitants, 11 000 personnes sur 50 000, des adultes qui signent des pétitions. Le mouvement en France est beaucoup plus élitiste. Même au début du 19e siècle, ce sont quelques centaines de personnes, quelques milliers. En partie d'ailleurs parce que les notables de la Restauration ont peur d'en appeler la population. C'est la hantise de la terreur, de la révolution, etc. Et donc on a un mouvement, je dirais, plus élitiste en France et plus massif, plus populaire en Angleterre. La deuxième différence, c'est que l'Angleterre, une fois que les Anglais abolissent la traite, interdisent à leurs ressortissants de pratiquer la traite, ils ne s'arrêtent pas là. L'Angleterre tente de faire interdire la traite, puis l'esclavage, à toutes les autres nations européennes et américaines. Et ça, c'est unique. C'est unique puisque, finalement, les autres nations abolissent la traite esclavage chez elles, mais ensuite ne militent pas forcément pour l'abolir ailleurs. Et donc, il y a un prosélytisme britannique qui est très, très important.
Là, vous mettez le point sur un élément qui est certainement très important, c'est celui de la méthode. Vous qualifiez ce moment abolitionniste, la révolution abolitionniste, c'est à la fois une révolution et c'est un réformisme. On le pressent dans le déroulé que vous venez de dire. D'abord, on interdit la traite et dans un second temps, l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y avait un débat, semble-t-il, à l'époque, entre les immédiatistes et puis ceux qui voulaient entrer dans un processus plus progressif. Ça me semble important car cette idée de salut personnel ou collectif ou de nécessité d'introduire de la morale pourrait conduire à penser qu'on est face à des gens qui ont un raisonnement absolu, qui ont des exigences immédiates et au contraire, on réalise que ce sont des gens extrêmement pragmatiques, tactiques, qui prennent en compte les conséquences possibles de ce qu'ils réclament.
Alors, oui, non, je dirais que c'est une révolution, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, pendant des millénaires, ça a été un impensé. Il a fallu attendre longtemps pour que l'on puisse imaginer qu'on puisse mettre un terme à l'esclavage, et on a affaire à des gens, encore une fois, qui ne se contentent pas de le penser, mais qui militent pour détruire ce système. Donc ça, c'est une révolution dans l'histoire de la pensée. Voilà. D'un autre côté, on a affaire à des radicaux en pensée, mais à des réformistes, pour la plupart, en pratique. Et comme vous le disiez, là, c'est une question que se posent les Britanniques dès le départ. Ils inventent une méthode que toutes les autres nations, pratiquement suivent après. On abolit d'abord la traite, puis l'esclavage. Parce qu'on pense que, raison tactique, ça va peut-être dissocier le front des adversaires entre les planteurs esclavagistes et les négociants négriers. On pense aussi que si les planteurs ne peuvent plus avoir de nouveaux esclaves, ils seront obligés de mieux traiter les leurs. Et on pense, parce que tous ces gens ont été éduqués par la culture classique gréco-romaine, on pense que petit à petit, l'esclavage pourrait disparaître quasiment lui-même. Parce qu'on pense que dans l'Antiquité, c'est comme ça que l'esclavage dans l'Empire romain aurait disparu. Les historiens d'aujourd'hui savent que ce n'est pas du tout le cas. Mais il y a l'idée...
d'une dynamique d'affranchissement. Quoi.
Voilà, d'une disparition progressive de l'esclavage dans le monde antique et qui pourrait peut-être se reproduire. Voilà. Néanmoins, les gens qui mettent en place cette tactique ont pour projet d'abolir l'esclavage à un moment donné. Voilà. Alors après, on a parfois critiqué ces gens en disant, voilà, ils veulent l'abolir, mais ils mettent beaucoup de temps à le faire. Il y a une chose qui différencie les abolitionnistes, heureusement, des esclavagistes, c'est que les esclavagistes sont racistes. Ils pensent que l'esclave est naturellement, entre guillemets, inférieur à eux. Les abolitionnistes pensent que tous les hommes sont par nature égaux. Égaux en qualité, égaux en droit, etc. Mais, disent-ils, l'esclavage, je reprends un terme de l'époque, abrutit les personnes qui sont soumises. Et les abolitionnistes ou les philosophes pensent qu'il s'agit, il en va de même pour les malades, pour les serfs, voilà. Et donc, que ces personnes doivent, entre guillemets, être éduquées pour devenir ensuite des libres citoyens. Hein. Alors on peut être d'accord ou pas avec cette façon de voir, mais l'historien est là pour essayer de mettre en avant comment les acteurs de l'époque pensaient. Et c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses, hein. Comme un système progressif pour passer de l'esclavage à la liberté et à la citoyenneté.
Oui, et peut-être ne pas oublier aussi que c'est à l'époque un débat, qu'en face d'eux, ils ont des gens qui défendent des positions esclavagistes, et que donc il y a une rhétorique qui peut se mettre en place, et dans laquelle il faut distinguer, dites-vous, le cœur de leur message et leur objectif, et aussi des discours qui peuvent être purement tactiques, conjoncturels, destinés à conquérir telle ou telle position intermédiaire.
Tout à fait, et là c'est vraiment une question essentielle.
Ce serait de la mauvaise foi de leur reprocher ensuite comme étant de la tiédeur.
Voilà, et c'est une question essentielle de méthode aussi, parce qu'il est très facile, vous le disiez, c'est l'un des écueils en introduction, très facile dans une littérature abolitionniste qui est énorme, il y a des débats parlementaires, des pamphlets, des ouvrages, enfin, c'est énorme, très facile de trouver une petite phrase, l'extrait de son contexte, nous dire, ben voilà, Victor Hugo nous dit ça en telle année, et donc les abolitionnistes, ça résume le projet abolitionniste. Sauf qu'Hugo n'a pas forcément été véritablement abolitionniste, et que c'est un homme à un moment donné. Je me suis posé la question finalement, comment savoir dans cette immense littérature ce qui est essentiel pour ces abolitionnistes et ce qui est un petit peu plus conjoncturel. Et comme vous le disiez, il y a un débat à l'époque. Les abolitionnistes sont au départ des gens très minoritaires, discrédités par leurs adversaires, et qui disent tout simplement, si on abolit la traite d'esclavage, vous allez ruiner les Amériques et ruiner vos propres pays. C'est un argument qui ne tient pas. Hein, lorsque la traite française disparaît avec la Révolution et la guerre maritime, aucun Français ne meurt de faim. N'empêche, en 1688, les esclavagistes nous disent que 6 à 8 millions de Français, 6 à 8 millions, vont mourir de faim si on abolit la traite. Et donc, face à ces quelques défenseurs au départ, l'idée abolitionniste, il y a un front énorme. Hein, et ces abolitionnistes, en plus, mettent en avant leur projet au moment où le système colonial esclavagiste américain est son apogée. Enfin, troisième élément, ça se met en place à l'époque de l'ère des révolutions, où finalement, parfois, les abolitionnistes sont montrés du doigt en disant « Attention, ce sont des hommes dangereux, ce sont des révolutionnaires. » Et donc, il leur faut, à ces abolitionnistes, il leur faut essayer de répondre aux arguments adverses. Et c'est comme ça, finalement. Lorsque vous étudiez ce que disent d'un côté les abolitionnistes, de l'autre leurs adversaires, donc lorsque vous étudiez deux immenses littératures, vous vous rendez compte que finalement, elles se répondent mutuellement, ce qui est tout à fait évident. Hein. Mais, et vous voyez finalement quels sont les arguments utilisés essentiellement pour répondre à l'autre.
Oui, dans le feu de l'action.
Voilà, tactique. Et quels sont les éléments, je dirais, plus essentiels, plus centraux pour les abolitionnistes. Et on s'aperçoit à ce moment-là que dans leur discours, il y a le juste et l'utile. que l'utile est souvent utilisé par eux, mais surtout pour des raisons tactiques, et que le cœur de doctrine des abolitionnistes, c'est le juste, ce qui les motive sans arguments avant tout moraux.
Voilà, mais ils sont obligés de descendre dans l'arène, et donc de se battre aussi pied à pied sur des questions de type, est-ce que ça va ruiner l'économie, est-ce qu'on ne va pas livrer l'économie à feu et à sang, oui, parce que par ailleurs, il y a un tableau qui est assez sidérant, où on se rend compte de l'ampleur quand même du phénomène, où dans certaines colonies, notamment des Antilles, je pense, 80% de la population, voire davantage, sont constituées esclaves.
Oui, oui.
Donc ça pose quand même aussi, de fait, un certain nombre de problèmes techniques, et ils n'ont pas hésité à les aborder également.
Tout à fait, tout à fait.
Enfin, nouvelle question, vous parliez des révolutions et du fait qu'ils pouvaient être pointés comme de dangereux révolutionnaires. On a le sentiment, en lisant le livre, que contrairement à ce qu'on pourrait penser de façon spontanée, ou peut-être à cause de la mythologie française, les moments révolutionnaires ne sont pas tant favorables à l'abolitionnisme que les moments de stabilité. Et que... Il faut une certaine confiance et stabilité des sociétés pour que l'idée progresse, alors que si l'on est déjà déstabilisé, en guerre, menacé, c'est mis de côté, c'est pas une priorité.
Alors je dirais que chaque période a joué un rôle. L'abolition française de 1794, la première en date de l'esclavage, et non pas de la traite, elle n'a été que momentanée, puisque Bonaparte, Napoléon, rétablit l'esclavage en 1802. Donc un coup pour rien, entre guillemets. Et néanmoins, elle est là dans les idées, dans les têtes. Donc chaque période a joué un rôle. Et justement, il est impossible dans cette longue histoire de créditer finalement de l'abolition un personnage particulier, un régime particulier. Encore une fois, chaque période a joué un rôle, plus ou moins important. Mais il est vrai que... les périodes les plus douloureuses rendent parfois l'abolition plus difficile. Par exemple, c'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité. À Saint-Domingue, les esclaves se révoltent en 1791. Ils se révoltent, ils obtiennent leur... ils se libèrent eux-mêmes. Et naît ensuite le Haïti, la première république noire de l'histoire. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que des esclaves se libèrent, tous, et je dirais définitivement. Et donc c'est une révolte qui devient révolution, comme Césaire l'a très bien dit. Paradoxalement, ce surgissement révolutionnaire affaiblit dans un premier temps les abolitionnistes. Et on le voit dans la correspondance des Britanniques. Pourtant, à ce moment-là, fin 18e, c'est en Angleterre que les abolitionnistes sont les plus en avant. Et dans la correspondance, ils nous disent « Attention, il y a ce qui s'est passé à Saint-Domingue, ensuite la révolution en France, etc. On va nous taxer de révolutionnaires. Faisons profil bas, en quelque sorte, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. » Et on voit ça également dans les débats sous la Restauration en France. Dès lors que le nom de Saint-Domingue est évoqué, il y a des murmures, des silences dans l'Assemblée. Hein. Et donc il y a comme ça des choses qui ont ralenti provisoirement le mouvement. Inversement, à d'autres moments, des révoltes d'esclaves ont accéléré formidablement le mouvement. Les Danois décident d'abolir l'esclavage dans leur colonie en 1847. Ils se donnent néanmoins une période de transition de 12 ans pour que ce soit définitif. 1848, à Sainte-Croix, les esclaves se révoltent. Les Danois, aussitôt, abolissent définitivement mettre fin à la période de 12 ans d'apprentissage. Donc vous voyez parfois des révoltes d'esclaves ralentissent le mouvement abolitionniste, à d'autres moments, elles l'accélèrent véritablement.
Je pensais plutôt à d'autres soubresauts politiques qui font que cette question-là n'étant pas considérée comme majeure ou s'insérant dans des rivalités nationales, des guerres, ralentit un processus qui n'est plus, examiné avec raison et calme, mais à l'aune d'autres paramètres. Notamment, je pense à la façon dont l'abolitionnisme en France pâtit de la guerre et des relations extrêmement détériorées, évidemment, avec l'Angleterre.
Tout à fait, tout à fait. À la fin du XVIIIe siècle, il y a un projet, finalement, parce qu'il y a une anglophilie dans les milieux éclairés français, et puis un rapprochement économique en... 1686 entre la France et l'Angleterre. Donc on pense à l'époque, et Necker le dit, que l'on pourrait peut-être, une nation toute seule ne réussirait pas. Mais si l'Angleterre et la France s'unissent, on pourrait mettre fin à la traite. Et ce qu'on pense à la fin du 18e. Puis il y a la guerre de la Révolution et de l'Empire. Et on passe de l'anglophilie à l'anglophobie. Et dans les chambres, dans les discussions à l'Assemblée, on nous dit que l'abolition, c'est un projet ourdi par la perfide Albion pour ruiner la France.
Il suffit que les Anglais le proposent pour que ça devienne quelque chose de diabolique.
Tout à fait, hein, tout à fait, tout à fait. Et l'un des premiers romans, le premier roman finalement du genre d'histoire maritime en France, Le Négrier, hein, de La Croix, ben dans ce négrier, c'est 1830 je crois de mémoire, dans ce roman, on fait dire ces mots au capitaine, les Anglais veulent nous faire abolir la traite, et bien justement ben je vais la faire. Voilà. Et donc vous voyez comment les obstacles s'accumulent, hein, contre ce projet d'abolition. Ce n'était pas donné d'avance.
Oui, c'est le point sur lequel je voulais qu'on vienne, c'est que votre ouvrage démontre que certes il y a des facteurs qui doivent être présents, qui peuvent être multiples et autres, mais que finalement ce sont quand même les hommes qui font l'histoire.
Oui,
et qu'un
c'est un combat
déterminé peut faire basculer une destinée ou une trajectoire historique. Oui. Puisqu'au départ, donc, ils sont extrêmement peu nombreux, ils s'organisent et ils ont cette volonté et ils réussissent.
Et ils réussissent. Et je dirais qu'à la fin, vous parliez tout à l'heure du passage du gradualisme à l'immédiatisme. À la fin, finalement, grâce à ce long cheminement, l'idée que l'on va abolir la traite d'esclavage, elle est dans les esprits. Et à la fin, ils sont les obstacles continuellement mis sur la route par les adversaires de l'abolition qui obligent les abolitionnistes à aller à l'immédiatisme. Finalement, on s'aperçoit en France et ailleurs que la tactique finalement de nombre d'esclavagistes, c'est de dire « Oui, vous avez peut-être raison sur le fond, mais voilà, il faut procéder lentement parce qu'il faut d'abord indemniser le planteur, il faut faire ceci et cela. » Et à la fin, les abolitionnistes se rendent compte que finalement, on va reporter comme ça indéfiniment l'abolition. Et en quelque sorte, c'est en partie l'obstination des esclavagistes qui pousse les abolitionnistes, qui sont réformistes, à passer à l'immédiatisme.
Alors, en revanche, l'histoire serait trop belle si elle s'arrêtait avec l'abolition de l'esclavage, au point où nous en sommes arrêtés. Ensuite, vous posez une question qui est intéressante, c'est est-ce que la fin de l'esclavage n'a pas contribué à l'essor de la seconde colonisation ? Expliquez-nous l'éventuel continuum qu'il peut y avoir entre les deux sujets.
Alors, éventuel continuum, oui, on peut se poser la question. Notamment parce que les premiers abolitionnistes, sur la fin du 18e et du tout début du 19e, ne sont pas forcément anticolonialistes. En ce sens que dans leurs textes, encore une fois, on peut trouver des termes, des passages où ils parlent d'établir des colonies en Afrique, de remplacer le commerce qu'ils disent infâme, qui est la traite des esclaves, par un commerce qu'ils disent légitime. On pourrait échanger des produits venant d'Europe, des Amériques, contre des produits issus du sol africain et travaillés par des Africains libres, restés chez eux. Voilà. Et certains nous pensent que voilà, c'est un des débuts, un des ferments de colonisation. En fait, quand on sort de la petite phrase, quand on analyse tous les textes, on les remet dans leur contexte, on s'aperçoit que quand ils parlent de colonies, la plupart de ces abolitionnistes pensent comptoirs, des comptoirs sur les côtes, pour faciliter ces échanges. Et ils ne pensent pas domination politique sur de vastes territoires, qui est le sens qu'on attribue souvent aujourd'hui à l'idée de colonisation. Hein. Et donc la fin du XVIIIe siècle, il y a l'idée d'un commerce légitime, qui certains y croient abolitionnistes, mais pour la plupart, on l'a vu tout à l'heure, c'est un argument brandi à l'encontre des esclavagistes pour leur dire, voilà, on abolit la traite, oui.
Mais le commerce continuera.
Le commerce continuera, il sera même beaucoup plus rentable et il sera beaucoup plus moral. On va gagner sur les deux tableaux à la fois. Hein. Et finalement, dans les années 1840, ce commerce légitime commence à se mettre en place, plus du côté anglais que français. Et à ce moment-là, les abolitionnistes n'en parlent plus. On voit bien que pour eux, c'est un argument tactique au départ. Hein. Ensuite, deuxième moitié du 19e siècle, les choses évoluent. Certains abolitionnistes, Buxton par exemple, président d'une société abolitionniste britannique, se rend compte que voilà, bon, les Britanniques ont arrêté la traite. Beaucoup de nations, la France l'a arrêté, les États-Unis, le Portugal est contraint de la limiter. Mais il y a encore des esclaves sur les côtes. Les premiers récits de voyageurs à l'intérieur de l'Afrique montrent que l'esclavage est florissant à l'intérieur de l'Afrique. Et Buxton et d'autres se disent, mais il ne suffit donc pas d'abolir la traite pour que l'esclavage disparaisse. Et certains se disent, il faut donc commencer peut-être à intervenir sur le sol africain pour lutter contre la traite. Buxton, à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, ne pense pas encore colonisation, ne pense pas encore même intervention forcément armée. On pense établir non plus des compteurs sur la côte, mais des sortes de plantations à l'intérieur pour, par mimétisme, développer finalement un autre type d'économie. C'est à la fin du 19e siècle qu'il y a vraiment ce que j'appelle le temps des interférences entre abolition et colonisation. Lorsque, par exemple, le cardinal Lavigerie, bras droit du pape, lance sa croisade africaine pour mettre fin à la traite en Afrique, en Afrique noire. Oui. En Afrique subsaharienne. Et il fait des conférences en Occident, en France, en Belgique, en Angleterre, pour lever une sorte de milice qui pourrait intervenir en Afrique contre les traitants, contre les négriers. Et à ce moment-là, je dirais que l'abolitionnisme donne des arguments à ceux qui, pour d'autres raisons, veulent coloniser l'Afrique subsaharienne. Jamais les abolitionnistes ne sont devenus véritablement des colonisateurs, mais à un moment donné, fin 19e, il y a des interférences entre deux mouvements et des alibis sont donnés. Maintenant, est-ce que la colonisation n'aurait pas eu lieu sans ces alibis? C'est une autre histoire.
Mais ça va peut-être quand même au-delà du simple alibi. De fait, hein, que Lavigerie et d'autres se saisissent de ce drame réel, parce que malgré tout, ce qu'ils décrivent est peut-être exagéré dans leur description, mais existe.
Tout à fait.
Qu'ils s'en saisissent à des fins de propagande, certainement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée qui s'est installée qu'il est légitime d'intervenir à l'extérieur, fût-ce militairement et avec des moyens vigoureux, pour faire triompher la morale? Une sorte de préfiguration du droit d'ingérence qui, malgré tout, est quand même déjà là, de façon latente, originellement, dans la démarche britannique, puisqu'elle devient, vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'interdire seulement pour soi, mais, je vais dire, urbi et orbi, pour tout le monde. Est-ce que là, il n'y a pas un point clé, quand même?
Oui, et je dirais que dans les années 1840, il y a déjà des bombardements, des points sur les côtes, des comptoirs africains de traite. Dans les années 1820, il y a quelques commandos de marine britannique qui interviennent sur les côtes, mais ça reste très limité. Et je dirais que longtemps, et aux origines, l'intervention d'humanité concerne les nations occidentales entre elles. J'ai l'intervention d'humanité. Là aussi, quand on parle d'invention, on pense que le droit d'ingérence pour les humanitaires, il apparaît au XXe siècle. D'autres nous disent, mais non, il apparaît un peu avant, etc. Le combat pour l'abolition de la traite et l'esclavage est un moment de cristallisation de ce qu'on appelle après le droit d'ingérence pour les humanitaires. Et l'un des premiers nœuds, c'est ce qu'on appelle le droit de visite. Le droit de visite, on le connaît depuis le Moyen-Âge au moins. C'est le droit pour un navire de guerre d'une nation de visiter un navire de commerce d'une autre. Mais ce droit-là, il n'existe qu'en temps de guerre. En gros, c'est pour voir si un navire dit neutre ne transporte pas des armes pour un pays belligérant. Voilà. Et dans le droit de la mer, on l'admet en temps de guerre. Les abolitionnistes l'appliquent en temps de paix. L'applique en temps de paix, et d'abord c'est l'Angleterre qui essaie de faire signer des traités instaurant le droit de visite avec d'autres nations. Certaines nations refusent, il y a des cas litigieux, il y a des moments où la France-Angleterre aurait pu entrer en guerre à cause de ce droit de visite. Il y a des moments où l'Angleterre coule des bateaux brésiliens dans les eaux brésiliennes, parce qu'ils sont suspectés d'être négriers. Ce qui est un cas de guerre. Hein. Et donc, dans un premier temps, je dirais que ces conflits liés au droit d'ingérence humanitaire concernent les pays occidentaux entre eux, hein, avant d'être exportés ou importés en Afrique subsaharienne.
Je vais forcer à aller un cran plus loin. Est-ce que dans cette vision globale et ces mouvements d'idées très profonds, pour les nations qui ont aboli l'esclavage, est-ce que de façon un peu paradoxale, elles n'en retirent pas un prestige et l'idée d'une supériorité sur celles qui continuent à l'exercer? Je veux dire par là, les nations occidentales qui se sont dit « nous avons aboli l'esclavage, nous sommes donc plus avancés, plus moralement, plus purs, et cela nous donne donc aussi, évidemment, des droits pour continuer à mettre le monde en mouvement ». Et là, l'articulation avec l'idée coloniale se fait quand même de façon assez évidente, non ?
Pas forcément que l'idée coloniale, mais l'idée que la bonne conscience et que les actions dites morales renforcent une suprématie, oui. Hein. Dans chaque pays occidental, d'Europe ou des Amériques, il y a eu une sorte d'histoire un petit peu hagiographique, mettant en évidence ses propres héros nationaux en matière d'abolition. L'Angleterre a longtemps considéré qu'elle avait joué un rôle, il est vrai, très important, mais presque unique en la matière. En France, on se fonde sur Schœlcher pour célébrer la République abolitionniste, en oubliant le demi-siècle ou plus de travail préliminaire à l'époque d'autres régimes politiques. Aux États-Unis, on pense que l'abolition est issue, finalement, des idées de la Révolution. Hein. Oui, si les idées de la Révolution portent en elles sans doute un projet qui pourrait être abolitionniste, il faut attendre 1863, en pleine guerre de sécession, pour que Lincoln, alors que la guerre a commencé déjà depuis longtemps, hein, nous disent que l'abolition de l'esclavage devient un objectif en soi. Donc, encore une fois, rien n'est acquis. Mais après, il est facile d'utiliser le passé pour s'enorgueillir, finalement, d'un travail, d'un effort qui constitue quand même un progrès dans l'histoire de l'humanité. L'abolition en droit de l'esclavage est quelque chose d'essentiel. L'esclavage aujourd'hui existe encore sans doute, de fait. Hein.
Il y a des urgences ici ou là en tout cas.
Voilà, tout à fait. Il y a sans doute des millions de personnes aujourd'hui de par le monde qui sont esclaves de fait. Mais l'esclavage n'existe pas en droit. Et ça, c'est quand même une avancée importante.
Dans cette rhétorique que j'évoquais sur l'orgueil, le prestige et les droits afférents qu'on peut en retirer, est-ce que le cas chinois m'a paru extrêmement, extrêmement intéressant, la façon dont il devance les pressions occidentales pour pouvoir s'en prémunir ou tenter de s'en prémunir? Est-ce que vous pouvez nous exposer cette histoire-là?
Ah, une histoire très complexe,
peu connue,
très complexe, assez peu étudiée. On pourrait commencer en l'an 9 de notre ère, lorsque l'empereur Wang Mang décide d'interdire la vente et le commerce des esclaves. Est-il abolitionniste? En fait, à l'époque, les esclaves servent finalement à constituer des troupes pour les grands. Et donc, en interdisant la vente des esclaves, l'empereur veut éviter que finalement de grands seigneurs deviennent des puissances rivales. Voilà, il n'y a pas d'objectifs moraux. Et puis, c'est un projet, mais ça tourne court très vite. Il faut attendre en gros entre 1105 et puis 1108 et 10 pour que l'esclavage soit non pas officiellement aboli, mais que l'esclavage soit interdit en Chine. Hein. Alors pour diverses raisons, s'agit-il d'arguments de raison morale? Finalement, assez peu. Il s'agit en bonne partie pour l'État de trouver un moyen de montrer à l'Occident qu'il se réforme. Puisque l'abolition constitue un progrès, comme l'on dit à l'époque, hein, dans l'esprit des Lumières, entre guillemets. Et puis, c'est le moment également où les Chinois se sentent stigmatisés en partie, les élites chinoises se sentent stigmatisées par le regard occidental. Et c'est intéressant de constater que la case d'Oncle Tom est traduite très rapidement en Chine, et que pour les Chinois qui lisent la case d'Oncle Tom, ils font un parallèle finalement entre les esclaves et la vision que les Occidentaux ont, disent-ils, des Chinois, comme des êtres finalement qui sont entre guillemets inférieurs. Et donc il y a tous ces éléments-là, il y a une sorte à la fois de montrer à l'Occident que le pays se réforme, et un sursaut de nationalisme dans les élites chinoises qui font que on s'oriente vers une interdiction du commerce des êtres humains. Voilà. Mais à la différence de l'Occident, il n'y a pas de mouvement, je dirais, abolitionniste à connotation religieuse, politique ou morale.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans certaines des motivations sur l'interdiction en Chine, il y a c'est même écrit, alors vous dites, je sors une phrase, ça veut dire que ça résume la question. Il est dit, sous-entendu ou presque dit explicitement, que de la sorte, les Occidentaux ne pourront plus leur faire la morale.
Oui.
Et se prétendre supérieurs ou nous considérer comme des barbares. C'est
tout à fait
extrêmement intéressant.
Tout à fait. C'est un argument qui est mis en avant.
Et qui démontre, à contrario, que pour les Occidentaux, ça leur donnait des droits à intervenir ailleurs, se sentant supérieurs, plus avancés, plus civilisés.
Oui. Maintenant, les choses sont complexes, parce que cette même ingérence, entre guillemets, morale de l'Occident peut conduire en Chine à une réaction nationaliste, entre guillemets, favorable à l'abolition, ou ça peut conduire à l'inverse, à Zanzibar. Émilie Ruette publie ses mémoires. Émilie Ruette est une princesse de Zanzibar. Elle se marie avec un négociant allemand et publie ses mémoires. Et puis, quand elle parle des abolitionnistes, elle dit, en gros, je schématise, ces braves gens qui, au coin du feu, tricotent des chaussettes pour les esclaves des tropiques. Bref, abolitionnistes qui ne connaissent rien de la situation. Finalement, devrait comprendre qu'il y a des lois qui varient suivant les régions du monde et que le droit au despotisme existe également. Et donc là, en Chine, le regard occidental facilite une réforme. Avec Émilie Ruette, le regard méprisant un peu des abolitionnistes britanniques conduit au contraire à une réaction qui a pour objet de presque de renforcer la légitimité de l'esclavage à Zanzibar.
Un exceptionnalisme revendiqué.
Voilà, vous voyez, les choses sont vraiment très complexes.
Écoutez, je pense que sur ce dernier exemple, on peut conclure sur la complexité, le foisonnement de ce cas, et on tire certainement à travers cet exemple ô combien riche, combien effectivement l'histoire n'est probablement jamais décryptée jusqu'au bout, et en tout cas jamais écrite, tant le précipité peut prendre des formes et des couleurs différentes. Est-ce que vous acceptez cette conclusion
du
travail?
Tout à fait. Merci à vous.
Merci beaucoup. Je précise pour nos auditeurs, car nous avons dit que c'était riche et fructueux, y compris pour comprendre des mouvements encore à l'œuvre aujourd'hui, voire des méthodes d'action. Donc, qu'il faut se plonger dans cet ouvrage, La Révolution abolitionniste, par Olivier Grenouillot, aux éditions Gallimard, dans la collection Bibliothèque des Histoires. Merci beaucoup, monsieur.
Merci.